Qu'est-ce qui était là la semaine passée? Attendez. Moi j'étais là, c'est Philippe qui a prêché. Nous a parlé de l'espérance qui rencontre nos peurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, parfois c'est dur de se souvenir de ce qu'on a entendu une semaine. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre deux. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur quand vous entendez ce qui se passe autour de nous? Moi, au loin, mais aussi proche. Il y a des amis qui tombent malades, il y a des situations de vie difficiles, et puis, finalement, Seigneur, quand même, je me réjouis que tu reviennes bientôt pour mettre fin à tout ça, fin à toute cette injustice, fin à toutes ces souffrances.
C'est vraiment une situation compliquée et on peut imaginer qu'ils vivaient dans la peur. Et en tout cas, certainement qu'ils priaient ou qu'ils criaient à Dieu pour dire « Viens nous délivrer ». On sait qu'ils attendaient un Messie de génération en génération. Hein, les textes bibliques étaient transmis et puis il y avait des prophéties qui annonçaient la venue de quelqu'un, du Messie. Et donc, les Israélites savaient qu'à un moment donné, quelqu'un allait venir les délivrer. Et ils imaginaient que ça allait être une délivrance politique, comme ça a été le cas souvent dans l'histoire d'Israël. Il y a eu, hein, au temps des juges, un autre livre qu'on trouve dans l'Ancien Testament, plusieurs fois Dieu qui a levé, qui a mis son esprit dans un homme ou une femme, et puis cette personne a délivré Israël de l'envahisseur. Et donc, naturellement, ils s'attendaient à ce que ça se passe de la même manière, certainement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Messie est bel et bien venu. Mais c'était un Messie qui les a délivrés spirituellement parlant. Ce n'était pas une délivrance physique de l'oppresseur romain à l'époque, c'était une délivrance spirituelle. Et puis cette délivrance n'était pas que pour le peuple d'Israël, elle était pour le monde entier. Et nous pouvons en bénéficier aujourd'hui aussi. C'était pour toutes les nations de la terre. Donc, et nous alors, pourrais-je dire? Eh bien, nous aussi, nous attendons le libérateur, n'est-ce pas? Alors, on n'est pas dans la même situation que les Israélites à l'époque, mais Jésus, juste avant de partir au ciel, a dit qu'il allait revenir. Donc, depuis ce jour-là, tous les chrétiens du monde attendent le retour de Jésus. Donc, nous aussi, on sait qu'il va revenir, on ne sait juste pas quand. Et à différents moments de l'histoire, les chrétiens ont pensé qu'il allait revenir très bientôt. Finalement, il n'est pas venu à ce moment-là. Donc, on est toujours un petit peu attentif à dire Jésus va revenir demain parce que les événements du monde, etc. Mais voilà, l'histoire nous montre que ce n'est pas si facile que ça et qu'on ne sait pas quand Dieu va revenir, quand Jésus va revenir. Quand je prie ces jours, mon cœur est un petit peu partagé. Comme je le disais au début, y a une certaine lourdeur sur mon cœur et puis je me dis, voilà, ça serait vraiment bien s'il revenait pour mettre fin à toutes les choses qui ne vont pas dans ce monde, finalement. Il y a énormément de gens qui souffrent, et on le voit, on le sait, et ça peut devenir pesant quand on prie pour ces situations. Mais on sait aussi que le cœur de Dieu, c'est qu'aucun de ses enfants ne se perde. Hein, il est celui qui va chercher la brebis perdue, laissant toutes les autres derrière pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et donc, il y a ces deux vérités qui sont là en tension, à la fois Dieu qui retarde le retour de Jésus, parce qu'il a envie que tous soient sauvés. Et puis en même temps, il y a aussi cette envie de mettre fin à l'injustice, à la souffrance. Et il y a ces deux réalités qui sont là, un petit peu en tension les unes avec les autres. Et quand je prie ces temps, c'est vraiment ces deux choses qui sont là sur mon cœur, en tension. Je prie à la fois pour que Jésus revienne, et puis en même temps, je me dis, mais Seigneur, il y a encore tellement de gens à sauver, tellement de gens qui ne te connaissent pas, et ils doivent entendre le message de l'Évangile, sinon ils seront perdus. Et il y a un passage de la Bible qui résume bien cette pensée. On trouve cela dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 17 et 20. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Hein, donc d'un côté, on a l'Église qui dit « Viens, hein, on appelle le retour de Jésus, mais il y a aussi cette invitation à celui qui ne le connaît pas ou celui qui a soif, hein, pour qu'il vienne boire de l'eau de vie et qu'il la prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Alors dans cette période de l'Avent, nous disons « Viens Seigneur Jésus, Maranatha. » Mais nous disons aussi « Ramène les brebis perdues à la maison. » Les fils et les filles prodigues, ceux et celles qui se sont égarés loin de toi. Et alors que nous entrons dans un temps de chant maintenant, je vous invite à garder ces deux aspects en tête, que nos chants soient comme une prière devant Dieu. Apportons nos fardeaux devant Dieu et louons-le pour qui il est. Il est celui qui va revenir bientôt et il est aussi celui qui veut sauver un grand nombre de personnes encore. Nous en parlerons encore davantage tout à l'heure avec David et Pearl qui partageront un témoignage de ce qu'ils ont vécu ces derniers temps et de comment est-ce qu'ils ont partagé l'Évangile autour d'eux. Je me réjouis beaucoup d'entendre ce qu'ils ont à dire. Mais voilà, maintenant nous voulons rentrer dans ses portes, rentrer dans sa présence, comme le dit ce chant, et puis adorer Dieu pour qui il est. Merci au groupe de louanges qui s'est préparé pour ce temps.
Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Chante dans tes portes. Chante dans tes Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnes la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimes avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que nous venons de chanter. Merci que Jésus vainqueur, merci que tu reviens, merci pour l'espoir que nous avons en te connaissant, merci pour qui tu es, merci aussi de bénir aussi nos moments ensemble maintenant que tu guides nos pensées, qu'on puisse être ouvert à ton écoute Seigneur, pour que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen.
Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs.
En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra.
Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité.
Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement.
En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle, et sa nature divine se voit fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables.
Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Ils ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité.
Ils se prétendent sages, mais sont fous. Au lieu d'adorer la gloire de Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres.
Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent, ils servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen.
Les versets de Romains, chapitre 1.
Dimanche dernier, je me suis retrouvée à Londres. Deux semaines précédentes, j'étais avec mes parents. On les a aménagés dans une maison de retraite. Et mon intention initiale, c'était de revenir après une semaine, mais j'ai prolongé mon congé pour aider ma sœur à vider la maison, en fait. Donc, j'allais partir samedi dernier. En arrivant à Londres, j'ai appris que mon vol de Londres à Genève était retardé. Ça a duré un bon moment. Après, ils nous ont appelés pour nous embarquer. On est monté dans l'avion, on s'est mis confortablement et après on a eu une annonce qu'on était encore retardé et ça allait prendre quelques moments en plus. On a attendu. C'était vers 10 heures du soir et après on a annoncé qu'à Genève dit non. On n'a plus le droit d'atterrir à Genève. Donc, ils ont annulé le vol. Ils nous ont dit qu'il allait s'occuper de nous, qui était en fait faux. Parce que bien sûr, ils vont nous compenser, mais c'était à nous de trouver une chambre pour la nuit et un autre vol pour le lendemain. Heureusement, en fait, c'est très, très difficile de réserver une chambre d'hôtel à minuit. En fait, en ligne, c'est impossible. Donc, heureusement, on a un fils qui habite à Londres. J'étais en contact avec lui, il m'a pris un Uber pour aller chez lui. Et à 2 heures du matin, on était là à réserver mon vol pour le lendemain avec EasyJet, pas British Airways. Donc, c'était très chouette de voir mon fils et ma belle-fille. Le lendemain, il m'a montré comment réserver mon taxi Uber pour aller à la gare. Et eux, ils sont partis à l'église. Très bien. Je l'ai réservé Et j'ai vu sur l'appli que le monsieur qui me conduisait, il s'appelait Mohamed. Donc, très bien, je suis montée dans le taxi et j'étais assise là. Je me suis dit, mais est-ce que je vais parler avec ce monsieur? Je n'avais pas envie, j'étais fatiguée, j'avais mal dormi. Et en plus, lui, avec un prénom comme ça, c'était de notre culture. Et moi, une femme seule, ce n'était pas normal. Mais après un moment, on était coincés au feu rouge. Ça m'a fait penser à Genève. Donc, j'ai fait une commentaire. Et après, je lui ai posé la question, « Monsieur, ça fait combien de temps que vous habitez à Londres ?» Il a dit 9 ans. D'accord. Et vous étiez où avant ? Dans mon pays. Donc, il ne m'a pas aidé, en fait. J'ai dit, c'était où ça ? En Iran. Donc, on a parlé de sa famille qui sont là-bas. Et après un moment, j'ai dit, moi, j'ai l'habitude de lire la Bible tous les jours. Et moi, j'ai lu les histoires récemment d'Esther et de Daniel. Et tout ça se passait dans la Perse. C'est chez vous, hein ? Il a dit, oui, oui, je connais. Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Et il a dit, oui, on connaît Jésus, c'est un bon homme. Ils l'ont mis à mort, non? Donc la conversation a continué et j'ai expliqué un peu pourquoi Jésus est mort, qu'il est mort pour nos fautes. On est arrivé à la gare, je suis sortie de la voiture, j'ai cherché mes bagages. J'ai glissé ma main dans une pochette de mon valise et j'ai sorti un petit bouquin. J'ai dit, monsieur, est-ce que c'est ta langue, votre langue? Et on voyait les yeux qui sont ouverts grands comme ça. Et en fait, c'était sa langue maternelle. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est marqué? Il a dit quelque chose comme, vous pouvez connaître Dieu. Il a dit, je vais le lire. En fait, ce bouquin, quand on vidait la maison de mes parents, je l'ai trouvé chez eux. Et je l'avais pris et j'avais utilisé l'appli Google pour le traduire, pour voir. Moi, je croyais que c'était l'arabe. Mais en fait, c'était la langue persane, c'est ça qu'on dit. Et je l'avais trouvé à la fin, je l'ai glissé dans ma valise. Donc, je me suis dit, si je n'avais pas osé ouvrir la bouche cette journée-là, je n'aurais jamais su que cette petite livre, c'était pour ce monsieur-là. Voilà.
C'est assez incroyable de penser que Dieu savait à l'avance que le vol allait être retardé, que Perle n'allait pas trouver un chambre d'hôtel, etc. Il y a trop de hasard. On n'a jamais parlé de ce thème avant. L'Avent et Noël, l'occasion de partager l'Évangile, mais lequel et surtout comment. Et donc, ce n'est pas dans notre domaine habituel. Ça, c'est malgré le fait qu'on a grandi tous les deux dans des familles missionnaires, qu'on est nous-mêmes partis de chez nous il y a 25 ans comme missionnaires en France, et que nous avons travaillé aussi avec une église en région parisienne où j'étais le pasteur. Mais soit Jésus est le chemin, la vérité et la vie, soit il ne l'est pas. S'il est, et que nous y croyons, il ne nous l'a pas révélé pour que nous soyons des chrétiens qui restent avec la bouche fermée. Assis dans une salle d'attente en attendant ce que le Seigneur nous appelle à aller chez lui à la fin de la vie. En silence, pour ensuite franchir la porte lorsque notre nom est appelé. En tant que chrétiens, nous savons ce que nous avons. Une relation avec Jésus, que nous avons la vie éternelle, un espoir pour l'éternité, la réalité de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Mais comment arriver à partager ça avec des gens qui s'intéresse pas ou semble ne pas s'y intéresser?
Comment partager l'Évangile avec les gens sympas, qui vivent de manière confortable, qui ont tout ce qu'il faut, qui semblent heureux dans leur vie? Cela me préoccupait que j'avais passé presque 11 ans à mon travail à essayer de glorifier Dieu dans mes comportements, mes attitudes, en espérant qu'on me poserait des questions sur ma foi. Mais cela m'est arrivé un ou deux fois. Souvent, je me sentais coupable parce qu'après le coup, je savais quoi dire, mais c'était déjà trop tard. Je ne me sentais pas capable de partager ma foi d'une manière claire et précise. non pas quelque chose qui m'aidait dans ma vie personnelle, mais que ne les concernait pas. Je leur disais que je priais bien, priais pour eux, bien sûr. Je parlais des événements d'église, mais j'avais toujours l'impression que tout cela aboutissait à rien. Il y a quelques années, on a reçu la visite de deux témoins de Jéhovah chez nous, à la maison. Et mon fils Jérémy leur a ouvert la porte. Et moi, je n'étais pas là. Mais la dame, elle voulait me voir. Moi. Et je me demandais pourquoi. Et mon fils m'a encouragée de l'inviter, en fait. 3 ans plus tard, on était toujours en train de discuter de notre foi ensemble. Cela m'a vraiment poussée à chercher à comprendre ce que moi je crois, ce que dit la Bible. Ce que m'a frappé le plus, c'est qu'on peut utiliser les mêmes mots, mais comprendre quelque chose de complètement différent.
Il est vrai que des personnes ont des objections contre le christianisme lorsqu'on essaie de témoigner, contre Dieu peut-être en général, y compris ceux qui ne croient pas qu'il existe, ils sont contre Dieu. Il est fort probable que nous non plus, on ne croit pas au Dieu auquel ils ne croient pas, c'est-à-dire un vieil homme barbu assis sur une nuage. Certains le verront comme distant, impuissant, d'autres le verront comme quelqu'un d'injuste qui veut nous condamner pour chaque erreur. Et puis Jésus. Ah, c'est l'histoire de Noël, n'est-ce pas? Oui, personnage intéressant d'histoire, enseignant sage au plan moral, mais qui a fini par être tué par ceux qui étaient plus forts. Eh bien, nous ne croyons pas non plus en un Jésus pareil. En tout cas, ce n'est pas le Jésus qu'on connaît, ni celui de la Bible. C.S. Lewis a dit, on ne peut pas dire de Jésus qu'il était un grand professeur de morale. Soit il était Dieu devenu homme, soit il était menteur. Il savait qu'il ne disait pas la vérité, soit il était fou. Souvent, tout ce que les gens entendent lorsqu'on parle de la foi chrétienne, c'est le mot religion, peu importe ce qu'on dit. Mais Jésus était le moins religieux des leaders religieux sur Terre. En fait, c'est avec les religieux de son époque qu'il avait toujours des soucis. La religion, c'est ce que je dois faire pour atteindre Dieu. Si jamais il existe, c'est une liste de devoirs. Mais les gens ne savent pas que la religion égale faire. Alors que l'évangile s'agit du déjà fait de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous offre ce qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes, ce que Jésus a déjà accompli. Alors c'est quoi l'évangile qui vaut la peine d'être partagé? Souvent, ça pourrait être le suivant. Tu as besoin de Jésus dans ta vie parce qu'il t'aime et il te rendra la vie plus facile. Mais c'est faux. C'est vrai qu'ils ont besoin de Jésus. C'est vrai que Jésus les aime, mais il ne rendra pas forcément la vie plus facile. Voyons un exemple de ce qu'est l'évangile.
Alors, David, c'est bientôt les vacances de Noël. C'est quoi Noël pour toi ?
C'est bien manger, être avec la famille, les amis et surtout des cadeaux.
Pour moi, Noël, c'est l'espérance certaine. Jésus est venu pour détruire la mort.
Quoi ? Mais les gens meurent toujours ?
Selon toi, il y a quelque chose après la mort ?
Je ne suis pas sûr. Peut-être.
S'il y avait le paradis, tu penses que tu vas y aller ?
J'espère bien, si ça existe.
Et selon toi, que faut-il pour y aller ?
Je pense être quelqu'un de bien, je suis gentil avec les gens, en tout cas avec la plupart. J'essaie de donner un coup de main, je soutiens des œuvres charitables, je ne fais de mal à personne.
Alors, tu te vois comme une bonne personne ?
Bien sûr.
Et c'est quoi la norme pour une bonne personne ?
Quelqu'un qui fait de bonnes choses.
Moi, je ne me vois pas comme une bonne personne. Selon la Bible, seule la personne qui suit les 10 commandements, sans faute, pourra aller au paradis. Quand je m'examine moi, je vois tout de suite que je n'y arrive pas. Combien de fois ai-je menti dans ma vie? Oh là là, je ne peux pas compter. Je sais que j'ai volé des choses, par exemple, un billet de tram, un bonbon, de la musique de l'Internet. Jésus a dit que si je haïs quelqu'un, j'ai commis du meurtre dans mon cœur. Tout cela fait de moi une menteuse, voleuse et meurtrière dans mon cœur. Et donc, quand je me retrouve devant le juge à la fin de ma vie, tu penses qu'il va me déclarer innocent?
Avec une liste pareille, non.
Donc pour moi, c'est le ciel ou l'enfer?
Alors là?
La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire que je mérite la mort et l'enfer. La mort est le policier qui m'arrête et l'enfer est la punition. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour que nous puissions nous échapper de la mort?
Non, je ne sais pas.
Si tu le sais et tu ne l'as pas compris, Dieu est venu sur terre lui-même en forme d'un homme nommé Jésus. C'est Jésus la seule personne qui a suivi les 10 commandements sans faute, mais on l'a mis à mort sur une croix. Ses derniers mots étaient « Tout est accompli ». En ce moment-là, il payait le prix pour mes fautes. Devant le juge, je suis coupable. Mais parce que quelqu'un d'autre, Jésus, a payé, il peut me libérer. J'accepte le don gratuit que je ne mérite pas et il me prendra vivre éternellement avec lui. Et donc, je n'ai plus peur de la mort. La mort avec Jésus, c'est le début de la vraie vie. Si tu étais dans un avion et tu savais qu'à un certain moment, tu seras obligé de sauter, est-ce que tu mettras un parachute?
Bah oui, bien sûr.
Mais pourquoi?
Parce que je veux rester en vie.
Exactement. La vie est comme cela. Un jour, tu seras face à la mort. On peut essayer de faire comme ça avec les bras pour éviter d'être écrasé. Ou on peut mettre un parachute pour atterrir gentiment. Les battements des bras sont comme les œuvres qu'on essaie de faire. Mais le parachute, c'est le don gratuit de Jésus. À nous de nous détourner de nos péchés et de mettre notre confiance en Jésus comme on le ferait avec une parachute.
Fin du jeu de rôle. Vous avez remarqué qu'on a souligné notre état humain devant Dieu et ce que Dieu a fait pour le rétablir. Les gens ne savent pas ce que c'est le péché. Une erreur d'ici ou là que tout le monde fait, ou un gros truc que nous, on n'a jamais fait, on n'a jamais tué personne. Et puis Dieu ne va pas nous condamner quand même, ce sera injuste. Et en fait, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Ils sont en train de briser le deuxième commandement qui a dit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu ». Parce que les gens, en faisant ainsi, ont imaginé un Dieu à leur façon. Pas trop ceci ou cela, gentil comme ceci, et surtout qui ne condamne pas. Mais le vrai message de l'évangile, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Eh bien, pour une bonne nouvelle, il faut avoir une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est perdu, qu'on va tout droit à la mort éternelle. Nous-mêmes, notre seul espoir, la bonne nouvelle, est d'accepter ce que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller tout droit en l'enfer. Mais partager ce message, difficile. Si vous êtes comme nous, vous attendez longtemps pour une occasion de partager votre foi avec votre voisin, votre collègue de travail. Et si oui ou quand le moment éventuellement arriverait, vous ne savez plus quoi dire. Nous avons grandi avec un dicton, prêcher l'évangile à tout moment, utiliser des mots si nécessaire. On essaie de trouver qui l'a dit. Apparemment, ça vient du 12e siècle. On pense que c'était un moine qui peut-être ne voyait pas beaucoup de monde. L'implication, c'est que si je mène une bonne vie, je n'ai pas besoin de parler de ce que je crois. Voici quelques raisons pourquoi on n'ose pas ouvrir la bouche. Satan, l'ennemi, le diable veut que nous nous taisions et voici quelques stratégies qu'il utilise pour le faire. Nous sommes convaincus que nous ne savons pas comment l'expliquer correctement, de manière à ce que la personne comprenne. On parle une langue étrangère. Notre façon, on est convaincu aussi que notre façon d'expliquer ne suffira pas à convaincre la personne, d'autant plus que nous nous sentons si faibles en tant que chrétiens à certains moments. On est convaincu que nous ne saurons pas répondre à leurs questions ni à leurs arguments. Et puis, bien sûr, à Genève, l'histoire de la laïcité, la société, nous fait penser qu'il s'agit de la vie privée et que nous n'avons pas le droit d'en parler. Nous sommes peut-être trop nerveux. Et on a peur que la personne ne nous aime plus si c'est quelqu'un qu'on connaît bien ou nous trouve bizarre. Et on a peur tout simplement. Et le cœur qui bat à 100 à l'heure, lorsqu'on pense qu'on doit saisir l'occasion, le temps passe et parfois on se sent coupable car peut-être les occasions se sont présentées mais on n'avait pas le courage de les saisir. Et on est persuadé que c'est à nous de les convaincre de la vérité. Et donc, évidemment, on ne se sent pas à la hauteur. Typiquement, on s'intéresse plus à notre vie spirituelle, notre engagement dans l'Église, la communion fraternelle, et on pense que l'évangélisation appartient aux autres, à ceux qui ont le don de l'évangélisation. On sert peut-être prêt éventuellement à inviter quelqu'un à un concert, comme vendredi soir ou autre, mais on a essayé dans le passé sans trop de succès. Mais la bonne nouvelle par rapport à l'évangélisation, cela ne dépend pas de nous. On ne peut pas convaincre les autres, humainement parlant. On ne change pas les gens. Si on croit à notre propre témoignage, Dieu est intervenu, il a changé notre vie de l'intérieur. Ça veut dire que, de toute façon, on ne peut pas convaincre l'autre personne. Donc les résultats ne dépendent pas de nous. Seul l'Esprit de Dieu peut changer les vies. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on ouvre la bouche pour, soi-disant, créer l'occasion. Et lui, il aura déjà tout prévu, comme l'histoire avec le chauffeur de taxi. Il s'agit de son travail.
Donc, pourquoi devrions-nous ouvrir la bouche? Si nous croyons ce que disait Jésus, sans lui, on est condamné pour l'éternité. La réalité, c'est que la majorité de la population ne mettra jamais les pieds dans une église.
Le marché spirituel est plein d'autres vérités. L'humanisme est imposé à la société comme une religion forcée. Mais Dieu a mis les gens sur notre chemin. Nos collègues, nos voisins, nos amis ne sont pas là par hasard. Nous sommes peut-être les seuls à pouvoir entamer la conversation avec eux.
Les gens recherchent des histoires authentiques. Ils ne peuvent pas mettre les mots dessus, mais nous le pouvons, et nous savons ce qu'ils recherchent vraiment. Mais ils ne le savent pas encore, donc ils ne savent pas poser les bonnes questions. Il y a 100, 150 000 personnes qui meurent chaque jour. Et combien d'entre eux sont Dieu? On ne sait pas combien de jours nous avons à vivre.
La majorité d'entre nous qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus, c'est peut-être parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus. C'est peut-être pas forcément lors d'un événement d'évangélisation organisé par l'Église. Récemment, j'étais pendant quelques jours l'église où il y a les Souels, en ce moment dans le sud, où j'ai donné une formation pour les pasteurs. Il y avait un pasteur là de Nîmes qui m'a raconté son témoignage. C'était un ami du collège qui lui a parlé de Jésus. Je pense à un autre ami, Stéphane Pincht, qui travaille avec Juifs pour Jésus. C'était à la fac, à l'université, qu'un autre ami lui a parlé de Jésus. Si je devais vous demander de vous lever la main, qui est venu à Jésus parce qu'un ami ou un membre de la famille leur a parlé de Jésus? On peut lever la main? Quelqu'un vous a parlé de Jésus? Voilà, la plupart. Donc, il faut saisir et créer les occasions. Les événements du calendrier chrétien sont déjà un cadeau quelque part. Il y a Noël, tout le monde pense à Noël, c'est partout. C'est peut-être le moment d'en parler. C'est peut-être le moment de parler du vrai Jésus, pas simplement le petit bébé plastique qui est dans la crèche, à qui certaines personnes croient. Il y a Pâques, il y a Ascension, il y a Pentecôte. Je me souviens, il y a quelques années, on avait des gens qui faisaient des travaux chez nous Et c'était juste avant l'Ascension, et j'ai dit, je pense que vous allez prendre les jours de congé, là, qui sont offerts. Oui, ben voilà, ça c'est l'histoire de Jésus, et c'est un peu pour ça que vous avez demain congé, là, c'est son histoire. On a fait Blablacar, et là, le jour de Pâques de cette année, on est monté à Paris, j'ai prêché dans une église en région parisienne le jour de Pâques, et juste après, on devait faire donc de Rambouillet, sud de la région parisienne, jusqu'en Bretagne. Et on avait deux personnes qui voulaient venir avec nous par le moyen de Blablacar. Et sur le chemin, on leur a dit, mais vous savez, c'est quel jour aujourd'hui? Comment est-ce que vous célébrez la Pâque? Et puis on a commencé à raconter Jésus. Avant qu'ils descendent de la voiture, on leur a donné un exemplaire du journal que Paul Robert nous a donné. Au moment, on en avait dans la voiture, on leur a donné. Sur le voyage de retour, il y avait deux jeunes dames. Là, le jour de Pâques, c'était... Oui, parce qu'on a amené trois personnes à un endroit et puis deux autres. Et il y a cinq personnes le jour de Pâques. En revenant, on a pris deux jeunes dames avec nous, dont une allait commencer un travail à la mairie de Tours et qui l'a dit, moi, je ne suis pas religieux. Je dis, ouais, Jésus non plus, il n'était pas religieux. En fait, c'était avec les religieux qu'il avait le plus de soucis. Ah bon? Et puis, voilà, on essaie de faire un petit peu comme on a fait. Et une autre jeune dame, on a pensé, elle ne disait rien. On se dit, ben, elle a quand même entendu. Donc la première est descendue de la voiture et puis l'autre en a mené jusqu'à Tours. Perle a dit, mais est-ce que je vais lui parler? Elle n'a pas répondu, etc. Et puis Perle a recommencé donc à lui parler. Et puis on s'est rendu compte qu'elle était bien endormie pendant tout le voyage. Elle n'a rien entendu avant. Et elle était toute ouverte à entendre. On parlait du film The Chosen qui est à la télé. Et elle a dit, mais je vais rentrer, je vais regarder ça ce soir. Elle était toute ouverte. Et puis, donc, mais imaginons encore une fois que si on n'osait pas ouvrir la bouche, on n'aurait rien su.
Le but de ce voyage-là, c'était pour aller voir une ancienne voisine qu'on avait pendant qu'on habitait à Paris. C'est une dame de 87 ans. Et on a gardé contact toutes ces années. Il y a 27 ans, on lui a offert une Bible. Alors, elle a basculé pendant toutes ces années en athée, en agnostique, tout ça. Et c'est dans les deux dernières années, depuis que moi je suis sur ce chemin, que j'ai pu vraiment avoir une discussion avec elle sur ce que c'est l'Évangile. On a eu plusieurs longues discussions. Et là, à Pâques, on a encore eu des discussions. On a découvert qu'elle connaît presque rien de l'histoire de Jésus. Et ce qu'elle connaît, elle ne croit pas. Donc, on est rentré. Quand on était là, je lui ai demandé si elle avait toujours la Bible qu'on lui avait offerte. Et elle a dit, bien sûr. Donc, elle est allée le chercher. On l'a ouvert. Et je voyais que moi-même, je ne pourrais pas le lire parce qu'elle est... Les lettres étaient minuscules comme ça. Donc, sur la route de retour, on est arrêté à une église et eux, ils avaient des Bibles avec des gros caractères. Donc, je lui en ai acheté et on les a envoyés. Et donc, elle n'avait pas d'excuse de ne pas lire la Bible. Donc, plusieurs semaines plus tard, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris 27 ans à penser à ça. Mais je me suis dit, mais pourquoi je ne lis la Bible avec elle par téléphone? Donc, quelques jours plus tard, je lui ai appelé, j'ai proposé l'idée. Elle a dit, bien sûr, c'est une très bonne idée, on va faire ça. Donc là, tous les lundis, je l'appelle et on lit l'Évangile de Marc ensemble. Et comme ça, on peut en discuter un petit peu. Et donc, le Seigneur continue à travailler dans son cœur. Parlons de Noël, je travaille comme enseignante dans une école internationale ici à Genève. Et ces dernières années, parce que j'étais prête à initier des conversations, j'ai eu beaucoup d'occasions à parler avec mes collègues de l'Évangile. L'autre jour, je suis entrée dans une classe pour discuter avec une enseignante. Et elle m'a dit, tu me parles beaucoup de Dieu, mais je ne sais pas si je crois dans le même Dieu que toi. Et j'ai dit, ah bon? Elle a dit, je ne peux pas Imaginez que Dieu est assis là sur un nuage, un homme, un vieillard barbu. Et j'ai dit, bien sûr, moi, je ne crois pas en ce Dieu-là non plus. Donc, elle a commencé de parler d'un esprit, de l'énergie plutôt. Et donc, on a continué la discussion. Et elle a des gros problèmes avec sa fille. Et l'autre jour, elle m'a dit, j'ai des grands, grands soucis pour ma fille. Je pense qu'elle est peut-être... Elle a une histoire très compliquée et elle a vraiment besoin de prière. Et donc là, je continue à prier avec cette collègue-là. Mais en revenant à Noël, en septembre, on a eu un message de la direction de l'école que comme un établissement, on va fêter plusieurs fêtes religieuses et autres dans le but d'être inclusif. Et on nous a demandé de nous inscrire pour promouvoir un de ces fêtes. Donc, j'ai regardé la liste. On a commencé avec le jour de la paix. Après, avec El Día de los Muertos, le jour des morts. Après, Diwali. Et après, j'ai vu qu'il y a Noël. Et je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un d'évangélique travaille sur cette fête-là. Donc, je sentais que Dieu me disait, c'est toi. Et je n'avais pas trop envie, mais je me suis dit, il faut. Donc, je suis précipitée vers ma collègue avec qui je prie toutes les semaines. Et on a décidé de le faire ensemble et on a une petite équipe. Donc, c'est juste pour dire que vendredi dernier, on a partagé une PowerPoint avec tous les enseignants et assistants de notre école pour partager avec les enfants cette semaine. Et dans ce PowerPoint, j'ai expliqué les origines de Noël et un survol de l'Évangile. Donc, s'il vous plaît, priez, si vous y pensez, priez avec moi que Dieu va vraiment travailler dans les cœurs de mes collègues et des enfants de mon école. Ce jour-là, vendredi matin, j'ai lu ça avant de partir à l'école. Dieu peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. En Éphésiens 3:20. Une autre petite histoire. J'aime bien donner une petite chose à mes voisins pour Noël. C'était un moyen de témoigner. Et l'année dernière, j'ai osé glisser une petite évangile de Jean dans le paquet. Plusieurs mois plus tard, ma voisine de 93 ans est tombée et était hospitalisée. Et à un moment, quand j'ai parlé avec sa fille pour demander comment elle allait, elle me disait « Merci beaucoup pour le petit bouquin que vous avez mis. Ma mère a beaucoup apprécié ça et elle le lit souvent. » Et j'ai pu prier avec cette âme-là dans l'un des pires moments de son année, quoi. Donc, c'était juste le fait de glisser ce petit bouquin dans le paquet.
On fait Airbnb depuis un moment, et depuis le début de cette année, on a donné à tous nos hôtes, toutes les personnes qui viennent, un petit évangile de Jean. Tout simplement en disant, parfois on a l'occasion de leur parler, parfois pas du tout, mais avant le départ... On aimerait vous donner ceci. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jésus. La voici racontée par l'un de ses meilleurs amis, Jean. Merci, c'est gentil. Non, je ne connais pas. Souvent, on a ce genre de réponse. Il y avait uniquement une dame américaine qui a refusé sur 60 depuis le début de l'année. Et on a pris donc dans plusieurs langues différentes. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire. Nous, on les a achetés. Donc, ça vient de la Société biblique de Genève. En gros caractère. Ou comme, si vous allez oublier ce que je viens de dire, comme un Américain a dit une fois, « Oui, on a des Bibles avec des gros mots, on peut vous chercher ça. » Donc voilà, c'est des gros caractères. On apprend toujours. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire. Il y a la Maison de la Bible en ligne. Pour ceux qui habitent en France, il y a CIC. Vous pouvez en faire une activité habituelle. Là, dans les deux dernières semaines, j'étais à un tournoi de tennis. J'étais à côté d'une dame pendant des heures. On n'a pas pu beaucoup se parler parce que c'était très fort la musique entre les points. Mais avant de se quitter, moi, je l'ai repérée dans l'aéroport, parce que c'est en Espagne. Et elle m'a commencé à raconter un concert qu'elle venait de prendre. Et puis je dis, mais il faut que je lui donne ça. Et puis je lui ai dit la même chose que je viens de dire. Jeudi dernier, chez mon orthophoniste, j'ai fait pareil. De manière normale, je ne me sens pas à la hauteur de faire des trucs comme ça. J'ai le cœur qui bat, Perle va le dire aussi. Vous ne l'avez pas entendu parler avant parce qu'elle est beaucoup plus timide que moi. Mais parfois, le Seigneur veut que simplement on ouvre la bouche et d'essayer d'en faire une activité habituelle. J'ai mentionné The Chosen, un film qui va passer pour donc, la troisième série à la télé française. Vous pouvez inviter les gens à la maison. Là, lorsque j'étais avec les Souels dans leur église, quelqu'un dans cette église a invité tous ses voisins et collègues, ils étaient 35, à visionner ensemble chez lui le film et puis ils ont discuté de leur réaction après. C'est tout ce qu'on vient de dire, vous dites, mais je ne pourrai jamais le faire, ne vous inquiétez pas, nous on n'a jamais pu le faire non plus, mais vous pouvez peut-être écrire quelques phrases courtes sur un papier ou en réfléchissant à si le collègue avec qui j'aimerais bien partager la foi était assis et m'a demandé, mais c'est quoi l'évangile, qu'est-ce que je dirais? Vous pouvez l'écrire, et puis, parce que, mais sans doute, eux, ils ne vont pas forcément vous demander. Donc, ne l'attendez pas. Mais vous pouvez écrire quelque chose de ce genre. J'ai toujours voulu te le dire, mais j'arrive jamais à trouver les bons mots et je le trouve difficile à m'exprimer, mais voici deux choses importantes. Connaître Jésus, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Jésus est tout pour moi. Ça n'a rien à voir avec la religion. S'il n'était pas là, je n'aurais aucun espoir. Écris-le, apprends-le, dis-le, répète-le, ou n'importe quoi comme phrase. Cela permet simplement d'ouvrir la porte de la discussion. Et c'est bon de pouvoir dire parfois qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas forcément la réponse à leurs questions. En conclusion, on est toujours encore sur la voie de l'apprentissage. C'est toujours une bataille. Il y a toujours une soi-disant raison de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas donner un évangile. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut changer les vies. Les résultats ne dépendent pas de nous. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on ouvre la bouche pour soi-disant créer l'occasion. Et lui, il aura déjà tout prévu car il s'agit de son travail. Parfois, on pourrait être découragé par une réponse, mais malgré ce que dit la personne en face, on ne sait pas ce qui passe par leur tête, leur pensée, comment ils vont réfléchir après. S'ils vont dire quelque chose, juste sur le coup, c'est un mécanisme de défense. On est en train de les sortir de leur zone de confort, de cette zone qui devrait rester privée et pas vue. Mais si le Dieu qui a créé l'univers, le Sauveur qui est ressuscité d'entre les morts, peut changer les cœurs, est-ce que nous y croyons? Donc, qui est-ce que Dieu a amené à vivre à côté de vous? Des collègues de travail à travailler à côté de vous? Vous pensez que c'était par hasard? Nous sommes peut-être le seul maillon de la chaîne que Dieu veut faire quelque chose dans leur vie. La bonne nouvelle est le seul espoir devant la mort. Récemment, on a assisté par visio à un enterrement d'une amie qui n'était pas très vieille, qui est décédée aux États-Unis. Et juste avant, donc elle venait de la France, il y avait sa famille qui a donné leur réaction devant le caméra. Ils n'avaient aucun espoir. Heureusement, notre amie connaissait bien Jésus. Mais là, la famille qui ne connaissait pas, ils n'avaient aucun espoir en parlant de leur sœur. On pense au taux de suicide en Suisse, on pense au désespoir devant le changement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'espoir et c'est le seul espoir face à la mort. Jésus a dit ceci dans Matthieu 24, il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'évangile soit annoncée à tous les peuples. Par qui? Il n'a pas dit, oh je vais organiser qu'il y a des prédicateurs spécialisés qui vont faire ça, non. Prochain verset, quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Pierre a dit, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. C'est peut-être le dernier Noël que vous allez pouvoir parler à une certaine personne. Les gens déménagent. Les gens tombent malades et la réalité, c'est que les gens meurent à tout âge. Jésus nous a dit, allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites de mes disciples et je serai avec vous tous les jours. C'est son œuvre, C'est lui qui change les cœurs, mais nous donne le privilège et la joie d'en faire partie. Le temps presse. Le musicien arrive. Seigneur, tout ce qu'on vient de dire, oui, c'est difficile parce qu'on est humain et on pense qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut rien faire. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui as changé notre cœur, c'est toi qui changes le cœur des personnes encore aujourd'hui. Aide-nous à être prêts à être tes ouvriers, à oser ouvrir la bouche, pour qu'on puisse témoigner aussi de ce que toi, tu vas nous donner comme parole, sachant que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen.
Préparant ce culte avec David et Pearl, on se demandait si on voulait faire un temps de questions ou de dialogue après le message. Et vu que le temps avance vite, on va pas faire ça maintenant. Mais je vous encourage à aller parler avec Pearl, avec David, avec d'autres. Moi, je discute volontiers aussi de ce sujet. Je ne sais pas comment c'était pour vous. Moi, c'est un sujet qui m'a marqué, qui me marque, parce que c'est ma réalité. Alors, pas ma réalité dans le sens où j'arrive à partager facilement l'évangile, mais ma réalité dans le sens où j'ai envie de partager l'évangile et ce n'est pas facile. Et j'aimerais, juste avant qu'on prenne la Sainte Cène, qu'on puisse dire comme ça, chacun votre tour, une phrase, quelque chose que vous avez retenu, que vous avez entendu ce matin. Pas besoin de faire un long discours, pas besoin de résumer tout ce que vous avez entendu, mais une chose qui vous a marqué. Et puis, je crois que ça va nous aider aussi à retenir tout ce qu'on a entendu ce matin. Par exemple, je vous donne un exemple, on pourrait dire, pas besoin d'être un évangéliste pour partager l'évangile. Vous voyez ? À vous. Il faut y croire. Parachute. Ouais, l'histoire du parachute. C'est Jésus qui prépare la personne. Chacun a son travail. C'est quoi notre travail à nous ? Pardon. Notre part à nous, c'est quoi ?
Ouvrir la bouche.
Merci, pardon. Qu'est-ce que tu disais ? L'évangile de Jean. Écoutez Dieu, ce qu'il a préparé pour chacun. être attentif à ce que Dieu fait chaque jour. N'ayez pas peur. Pas facile, hein. Jésus avait beaucoup de problèmes. Ouais. C'est avec les religieux que Jésus a le plus de problèmes. Si on ne parle pas, qui parlera ? Bon, vous avez compris le message, hein ? Moi aussi. Pas facile, mais tellement nécessaire. On doit tous, je crois, se pousser, sortir de notre zone de confort pour partager de manière parfois très simple l'Évangile. Hein. Souvent, on se met des barrières et on laisse ça à quelqu'un d'autre, mais parfois, ce quelqu'un d'autre n'existe pas. Et il y a beaucoup d'opportunités manquées. Donc, continuons à en parler et puis à s'encourager les uns les autres à témoigner de manière simple tout autour de nous. Dans mon introduction, j'ai parlé de ce passage dans le livre de l'Apocalypse qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». Eh bien, en attendant qu'il revienne, il y a quelque chose que Jésus a demandé à ses disciples de faire jusqu'à ce qu'il revienne. C'était lors d'un repas, le dernier repas qu'il a pris avec eux. Ils mangeaient régulièrement ensemble, ils vivaient ensemble. Et puis, lors du repas, il y avait du vin, il y avait du pain, des choses habituellement sur la table. Et Jésus a utilisé ces deux choses pour en faire un symbole. Il leur a dit, à chaque fois que vous faites cela, donc à chaque fois que vous prenez du pain ensemble, que vous buvez du vin ensemble, ça aurait pu être autre chose, je pense, eh bien, souvenez-vous de ce que j'ai accompli pour vous. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, en partageant un bout de pain, un peu de vin ou de jus de raisin pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. On veut se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à la croix pour nous, il est ressuscité, et grâce à cela, le voile a été déchiré, le voile qui nous séparait de Dieu, et nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Ce temps de communion que nous partageons les uns avec les autres, mais aussi avec nos frères et sœurs du monde entier, et pour ses disciples, ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, ceux qui ont entendu ce témoignage et qui l'ont accepté. Mais j'aimerais aussi dire ce matin, peut-être à l'un ou l'autre qui ne se sent pas digne de prendre ce repas, qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre en ordre devant Dieu. Qu'on l'ait déjà fait, qu'on soit déjà chrétien, disciple ou simplement qu'on n'ait pas encore fait ce pas d'accepter Jésus comme son sauveur, chaque jour, chaque instant est une occasion de venir à lui. Je vois toujours Dieu comme quelqu'un qui a les bras ouverts, il est accueillant. Bien sûr, le péché dans nos vies l'attriste, mais il y a à chaque instant un moment pour dire « Pardon Seigneur pour mon péché, je viens vers toi avec un cœur repentant, accepte-moi ». Et Dieu nous accepte vraiment. Donc aujourd'hui, je vous encourage, peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie, peut-être quelque chose cette semaine qui s'est passé et qui fait que vous dites « Ah, je ne suis pas sûr si je suis digne de prendre ce repas, de participer à cela ». Maintenant, vous pouvez demander pardon à Dieu et puis prendre ce repas, cette communion avec nous tous. S'il y avait eu les enfants au début du culte, je leur aurais posé la question « Qu'est-ce que c'est l'Évangile et comment est-ce que vous parleriez de l'Évangile à vos amis ?» J'avais essayé de résumer ça et j'avais dit « Voilà, on était foutus, mais Jésus nous a sauvés. » Ou on était endettés jusqu'au cou, mais Jésus a tout payé à notre place. Ou alors nous étions condamnés, mais en Jésus nous avons été graciés. Voilà, j'invite ma femme, et puis si je peux avoir encore deux volontaires pour nous aider à servir cette sainte scène. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, encore plus spécial que d'habitude. Il n'y avait plus assez de petits gobelets violets. Normalement les gobelets violets c'est là où il y a le jus de raisin pour ceux qui ne veulent pas boire d'alcool. Là, vous verrez, il y a un trait bleu qui entoure des gobelets transparents. Ceux-là sont aussi du jus de raisin. Voilà, donc soyez attentifs si c'est important pour vous. Et sinon, tout autour, c'est du vin comme d'habitude. Je vais prier et puis on va distribuer cette sainte scène. Et puis, pendant que les paniers circulent, sentez-vous libre de prier aussi si vous le désirez. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce pain, merci pour ce vin, mais surtout merci pour ce qu'il représente, ton corps qui a été cloué à la croix, ton sang qui a été versé pour nous. Ce sacrifice sans quoi nous serions condamnés, Seigneur. Et merci pour cette œuvre que tu as faite dans nos vies. Merci parce qu'un jour, nous avons entendu l'Évangile et nous avons eu l'occasion de dire oui. Que ce soit en grandissant dans une famille chrétienne ou par un ami, un collègue ou quelqu'un qui nous a parlé de toi, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci de nous avoir graciés, d'avoir payé notre dette. Aide-nous à partager la bonne nouvelle de l'Évangile, ce don merveilleux que tu nous as donné à tous ceux qui croisent notre route. Amen. Et voilà, comme d'habitude, si certains aimeraient avoir la coupe, levez la main, je passerai vers vous aussi. Amen. Quelques annonces encore avant de terminer ce culte. Tout d'abord, le culte de Noël, 17 décembre, donc dimanche prochain. Paul Robert et Michaela ont confectionné des petits flyers. Ça ressemble à ça et vous pourrez les trouver à la sortie. Et ça va très bien avec le thème du jour puisque c'est pour inviter vos voisins, vos amis, vos collègues de travail. On ne veut pas être juste entre nous pour cette fête de Noël, mais on espère qu'il y ait d'autres gens aussi qui soient là. C'est vraiment une bonne occasion pour inviter des gens. C'est assez facile d'inviter des gens à une fête de Noël, peut-être plus que pour un autre culte. Donc, prenez des flyers avec vous et puis essayez de les distribuer durant cette semaine autour de vous. Pour que cette fête se passe bien, vous le savez, mais on vous le rappelle, il y a des billets à la sortie sur le tableau. Donc, chacun est appelé à amener quelque chose, soit sucré, soit salé. Et puis, pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui amène la même chose, il y a des suggestions sur le tableau. Donc, merci de prendre ces petits post-it avec et puis d'amener ça dimanche prochain. Si vous ne savez pas cuisiner ou que voilà, c'est ça qui vous retient, il y a aussi possibilité d'acheter du pain, du fromage. Enfin, voilà, il y a aussi des choses comme ça que vous pouvez prendre et amener. Merci d'amener tout cela entre 9h et 9h45 dimanche prochain pour que ceux qui préparent la fête puissent aussi participer au culte. Si tout vient à la dernière minute, voilà, ils devront encore préparer tout ça et puis ils ne pourront pas participer, ce qui serait dommage. Et puis, il y a aussi une possibilité de vous inscrire pour aider soit avant, soit après la fête, pour mettre en place les choses. Mais encore une fois, ça ne vous empêchera pas de participer à la fête. Donc voilà, il y a aussi une petite liste où vous pouvez vous inscrire. Et puis ensuite, c'est Claire Lisseret qui prendra contact avec vous pour s'organiser et voir avec vous si vous venez plutôt avant ou après et qui vous donnera ces détails-là. Merci d'avance. Le camp de ski du groupe de jeunes qui aura aussi bientôt lieu. Là aussi, il y a des post-it. Alors, ils ne sont pas encore affichés, mais vous pouvez aller... Oh là là, j'ai un énorme blanc. S'il te plaît, rappelle-moi ton prénom. Merci. Donc, vous pouvez aller vers Elliot, qui se tiendra à la sortie, et puis plus tard, il les affichera aussi. Là aussi, il y a des denrées que vous pouvez acheter pour les aider pour le camp. On fait ça chaque année et ça les aide beaucoup. Donc, vous prenez un ticket ou plusieurs, et puis vous achetez ces choses, et puis vous les déposez soit devant la porte du groupe de jeunes en bas, soit dans la salle si elle est ouverte, avant le 20 décembre, pour qu'ils puissent avoir ces choses quand ils partent au camp. Voilà. Merci d'avance aussi. Et puis, une très bonne nouvelle, il y a un nouvel an qui s'organise ici à l'EM, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion de fêter ailleurs ou avec des amis, etc. Donc, vous pouvez sans autre venir ici. Il y a quelque chose qui sera organisé le 31 décembre à 19h30. Nous, on viendra en famille et on se réjouit beaucoup. Donc là, on vous demande juste de vous inscrire aussi à l'entrée. Il y a beaucoup de choses à faire à l'entrée aujourd'hui. La participation aux frais est libre, donc voilà, sentez-vous libre de donner ou pas pour cela. Et puis, suivant le nombre de gens qui sont inscrits, eh bien, voilà, on verra ce qui sera organisé. J'imagine que tous ceux qui veulent aider à organiser sont encore les bienvenus aussi. Mais c'est Chantal Rosset, j'imagine Jacques aussi, je ne sais pas, je ne veux pas t'impliquer dans l'organisation, mais qui organise tout cela, on les remercie beaucoup. Voilà, inscrivez-vous pour cela. Et puis une dernière annonce, un dernier rappel, c'est le dernier moment si vous désirez participer à la cagnotte pour Joshua, qu'il puisse acheter une voiture. Hein. Donc Joshua est missionnaire au Brésil, c'est un des enfants de David et Pearl. Et puis voilà, il aurait besoin d'aide pour avoir une voiture, pour faire des trajets qui prennent vraiment beaucoup de temps en transport public. Et il y a une cagnotte qui a été faite pour l'aider en ce sens. Donc, il y a des codes QR dessus, il y a un lien pour un site, il y a aussi la possibilité de mettre de l'argent dans des enveloppes à la sortie. Voilà, vous n'avez aucune excuse. Il y a encore des papillons aussi, vous pouvez les prendre avec. Enfin, s'il y a un aspect technique qui vous retient, ne vous laissez pas retenir, venez nous voir, on vous aidera volontiers. Bien sûr, vous êtes libre de donner ou pas, hein, mais... Sachez qu'il reste quelques jours, avant que cette cagnotte se ferme. Donc voilà, c'est vraiment le dernier moment si vous voulez participer à cela. Et là aussi, je vous remercie d'avance. Voilà, je vous propose de vous lever, je vais prier et puis nous terminerons ce culte. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps que nous avons pu vivre avec toi, dans ta présence. Merci de ce qui a été partagé, du défi qui nous a été lancé ce matin par David, par Pearl, mais aussi par toi, je crois. Et Seigneur, que dans cette semaine, nous puissions être attentifs à ce que tu nous dis, attentifs à nos voisins, à nos collègues de travail, à tous ceux qui croisent notre route, Seigneur. Et puis que tu nous donnes ce courage et aussi cette simplicité de parler, d'ouvrir la bouche et de te laisser parler au travers de nous pour que nous puissions être des témoins dans cette période de Noël. Amen. Bon dimanche. À tout à l'heure si vous restez pour le café. Et bonne semaine.